première question, premier type de question, je vois bien de quel groupe cela vient. À quoi Dieu nous invite-t-il? À quoi nous appelle-t-il? Quel risque nous demande-t-il de prendre pour répondre à son appel au bonheur? Donc comme dans la dernière question, il y a la réponse à la première, ça va vite. Je crois que Dieu nous invite au bonheur. Dieu a créé l'homme non pas pour qu'il vive une vie pénible, mais pour qu'il puisse être heureux afin de rendre gloire à Dieu. Le but de l'homme, c'est de rendre gloire à Dieu. Et la manière de rendre gloire à Dieu, c'est vivre le bonheur, qui est l'autre nom de la sainteté, car l'appel que Dieu nous lance, c'est l'appel que Dieu lance à son peuple, « Soyez saints, car moi, Dieu, je suis saint ». Mais la sainteté dont parle Dieu, c'est l'appel au bonheur. Et cette sainteté, le Christ la décrit dans le Sermon sur la montagne, et tout spécialement dans les Béatitudes, où il proclame « Heureux les doux, les pauvres de cœur, les miséricordieux, ceux qui pleurent, les affamés de justice, ceux qui sont persécutés ». Et cet appel à la sainteté, elle n'est pas quelque chose qui nous invite à renier une part de nous-mêmes, mais elle est au contraire quelque chose qui nous invite à être totalement nous-mêmes. Et donc je crois que l'appel qui retentit au cœur de chacun, même si on ne le discerne pas, est un appel à être, à épanouir cette humanité que Dieu a mis en nous, dans la réponse à l'invitation que Dieu nous lance par Jésus, « Veux-tu me suivre ? Veux-tu me suivre ?» Et c'est dans cette suite du Christ dont nous voyons bien et dont nous mesurons bien les uns et les autres qu'elle peut être chaotique. Vous savez, il y a des sentiers qui sont sinueux, il y a des sentiers qui sont droits, il y a des sentiers qui sont en pente, il y a des sentiers qui sont plats, il y a des sentiers qui sont irradiés par le soleil, il y en a d'autres qui sont baignés par la pluie. Mais c'est dans ce chemin-là que Dieu nous demande de le suivre et le suivant de trouver le bonheur de notre vie, à chacun son bonheur, parce que ce bonheur se construit jour après jour, il se construit avec ce que nous sommes, avec notre histoire. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autre réponse, qu'il n'y a pas d'autre appel que celui-là. Bonheur et sainteté sont liés, à nous de découvrir comment ce chemin de sainteté est un vrai chemin de bonheur. Après, quel risque nous demande-t-il de prendre pour répondre à son appel au bonheur? Permettez-moi de faire là une incursion dans aujourd'hui une question qui m'habite très profondément. Première chose, je voudrais dire, je crois que le premier risque qu'il nous demande de prendre, c'est de vivre. Il faut prendre le risque de la vie. Et encore une fois, j'ai essayé de le montrer, non pas une vie étriquée, non pas une vie petite, mais une vie à la dimension même de Dieu, qui est, je crois d'ailleurs, le sous-titre de notre thème, c'est « Je suis venu pour que les hommes aient la vie, et la vie en abondance ». Notre Dieu est le Dieu de l'abondance, et donc ce Dieu de l'abondance est celui qui nous invite à vivre pleinement, poumons déployés, cœur donné, pour que nous puissions répondre véritablement au projet qu'il a sur nous. Mais je crois qu'il y a aujourd'hui un risque majeur, et nous le voyons depuis plusieurs mois, la peur a envahi notre monde. La peur a déferlé sur l'humanité. Et je pense que nous sommes aujourd'hui tétanisés par la peur. Un microscopique virus a fait sauter en éclats une partie entière de la construction sur laquelle nous vivons aujourd'hui. Notre construction personnelle, notre construction sociale et également notre construction spirituelle. Et je pense que nous avons à dépasser cette peur. Dépasser la peur radicale de l'existence. Cette peur de l'existence qui consisterait à ne pas à refuser l'abondance que Dieu promet pour, vous savez, en maths, il y a le PPCM et le PGCD, le plus petit dénominateur commun, là. La tentation, ça serait le repli sur soi en disant « J'ai un petit truc, là, c'est pas génial, mais au moins je l'ai, évitons de prendre des risques pour assurer ce que j'ai. » Ça, c'est mortifère. Et c'est le chemin de la peur de l'existence. Je crois qu'il y a une peur de l'autre aussi. Le risque que nous avons à prendre, c'est le risque de l'autre. Aujourd'hui, je sens, je le vois à Lourdes, mais je le vois dans l'Église, je le vois dans la société, la peur de l'autre, elle est dramatique. Il faut la comprendre, hein. Je pense qu'il faut rejoindre tous ceux qui ont peur aujourd'hui, pour les inviter à une résilience, nous avons une capacité de résilience qui est étonnante. L'humanité a une capacité de résilience étonnante. L'homme lui-même a une capacité de résilience. Et je pense que cette capacité de résilience, elle nous invite à ne pas considérer l'autre comme un danger potentiel, mais au contraire comme celui qui peut me révéler à moi-même. Et si je vois l'autre comme quelqu'un qui aujourd'hui peut me contaminer, alors il y a un risque, me semble-t-il, très grand que nous perdions la richesse de ce principe de solidarité dont je parlais tout à l'heure, et que donc nous nous isolions les uns par rapport aux autres. Et ça, pour moi, ce n'est pas le projet de Dieu. Il les créa hommes et femmes. C'est-à-dire qu'il les créa deux. Il les créa ensemble. Et je pense qu'il faut que nous surmontions cette peur. L'autre, c'est la peur de Dieu. C'est la troisième peur que je crois que nous devons surmonter. C'est cette crainte qui peut s'insinuer en nous que Dieu nous a abandonnés. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui est difficile parfois. Vous savez, traîne quand même dans, si ce n'est pas dans nos esprits, parce que nous sommes des gens parfaitement éduqués, donc il n'y a pas de souci, mais dans l'esprit des autres. C'est de dire que Dieu est à l'origine de cette pandémie, comme il a été à l'origine du sida, comme il est à l'origine de toutes les catastrophes. Il y a une vision de Dieu qui est ça. Hein, tu es pas sage, donc je te punis. Et ça rejoint une autre question. Quel regard pose-t-il sur nos égarements, nos erreurs, nos tourments? Ou comment aimer Dieu dans la désolation, le cœur brisé? Vous savez, ça rappelle cette phrase de ce détenu à Auschwitz, qui, après avoir assisté à la pendaison d'un détenu, un autre lui dit « Toi, tu es croyant, mais où est-il ton Dieu ?» Et il désigne simplement le pendu. Il est là. Dieu est là, dans cet homme qui a été pendu. Et Dieu est là, dans nos désolations. Et Dieu est là, dans nos meurtrissures. Et Dieu est là, dans nos faiblesses. Il vient nous rejoindre jusque-là. Et il vient nous dire « Puisque je suis là, ma force est en toi. » Et c'est avec cette force que tu vas pouvoir dépasser ça. Mais ne pense pas que tu puisses le faire sans moi. Mais avec moi, tu pourras le faire. Et comment est-ce que donc nous acceptons que Dieu vienne habiter nos désolations, que nous ne vivions pas nos désolations comme une absence de Dieu, mais que nous vivions nos désolations comme la présence cachée, parfois, de Dieu. Mais vous savez combien Saint Jean de la Croix, ce grand mystique, a pu vivre ces nuits de la foi dans une présence cachée de Dieu. Ça ne voulait pas dire que Dieu était absent, mais ça voulait dire que Dieu, qu'il ne le voyait plus, et pourtant il était là. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la Genèse, Dieu était là et je ne le savais pas. Comment vivre nos périodes de désolation, non pas comme une période d'absence de Dieu, mais comme une période de présence cachée de Dieu, cette présence cachée de Dieu qui ne demande qu'à se réveiller. Et souvent, il s'agit d'ouvrir les yeux de notre cœur pour s'apercevoir que Dieu est là. Et si Dieu est là, alors nous ne sommes plus jamais seuls, parce que la promesse que Dieu fait en Jésus, « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps », elle est réelle, car Dieu tient ses promesses. Donc, première question, vivre, dépasser la peur. Une autre question est posée, comment être attentif à l'esprit, à la petite voix, comment ne pas l'étouffer? J'aurais la réponse, j'aimerais bien, mais... Je vais vous faire un aveu, je l'ai dit dans une prédication il n'y a pas très longtemps. Je crois que j'ai découvert l'Esprit-Saint à Lourdes. C'est bizarre, hein, en principe on doit y prier Marie plutôt. Mais en fait, devant l'immensité de la tâche qui était là à faire, instinctivement je me suis dit, mais Esprit-Saint guide-moi. Jamais j'avais prié comme ça. Et je pense que d'abord... Comment être attentif à l'esprit, à la petite voix, c'est d'abord l'invoquer. Veni Creator Spiritus. L'invoquer. Et lui demander d'être là. L'esprit, honnêtement, l'Esprit Saint, c'est souvent le grand absent de notre prière. Hein. On peut prier le Père, on peut prier le Fils, on peut prier Marie. Pourtant, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de feu. C'est l'Esprit d'amour. C'est le défenseur, le paraclet. C'est celui qui nous inspire, ce que nous devons dire. Et donc je crois que c'est cette habitude qui nous est donnée de prier l'Esprit-Saint qui nous aidera à être attentifs. En acceptant que l'Esprit ne se dise ni dans le tremblement de terre, ni dans autre chose que le doux murmure de la brise légère. Et donc il faut nous ouvrir à la délicatesse de Dieu. Dieu est délicat. Et Dieu ne peut faire irruption dans une vie, et on voit bien des conversions, mais la plupart du temps, Dieu, il se dit dans l'ordinaire de notre existence. Dieu, il se dit dans la beauté d'un paysage devant lequel on peut passer 15 fois et qui ne nous apparaîtra pas magnifique, mais une fois, il nous apparaîtra comme splendide. Dieu, il peut se dire dans une conversation qui, somme toute, commençait par être banale et puis quelque chose qui nous révèle la profondeur de l'humanité. Dieu se dit dans des choses simples. Dieu est simple. Et ce n'est pas rien que le Christ exulte sous l'action de l'Esprit-Saint en te disant « Je te rends grâce, Père, car ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Parce qu'il ne nous demande pas des raisonnements, mais il nous demande d'accepter de nous faire tout petits pour accueillir sa surprise. J'ai l'habitude de dire que l'autre, c'est le sanctuaire de l'imprévu. Et je pense qu'il faut que nous acceptions que Dieu, ce soit l'imprévu. Et que donc, si nous commençons à faire des plans, alors nous empêchons l'Esprit-Saint d'aller. Et ça rejoint une autre question qui a été posée à un moment. L'audace de vivre sa vie versus se laisser déposséder, comment concilier les deux, Mais il n'y a pas d'opposition entre les deux, si l'Esprit-Saint est là. Vivre sa vie et se laisser déposséder, c'est la même chose. Nous ne pouvons vivre notre vie qu'en nous laissant déposséder de nous-mêmes. Ou alors, nous maîtrisons notre vie, nous l'encadrons. Et nous voyons bien que si nous l'encadrons, mais d'abord on empêche l'esprit d'agir, mais nous-mêmes on nous empêche de vivre. Vous savez bien que plus vous vous mettez des barrières, plus vous tenez votre vie les poings serrés, plus elle vous échappe, parce que la vie c'est un gaz et que ça remplit tout l'espace existant. Et si vous donnez un tout petit espace, vous avez une toute petite vie. Si vous avez un grand espace, vous avez une grande vie, une immense vie. Et que donc nous ne pouvons pas, me semble-t-il, avoir d'autres horizons que ceux que l'Esprit nous donne, qui sont des horizons à la dimension de l'amour de Dieu, et donc de l'immensité. Mais si nous la restreignons dans ce que nous disons, c'est comme ça et c'est pas autrement, ça sera comme ça et c'est pas autrement, si nous prévoyons tout, si nous calculons tout, d'abord nous sommes complètement déboussolés quand il y a quelque chose qui arrive et que nous n'avions pas prévu, et puis ensuite, nous ne laissons plus cours à l'Esprit-Saint. Accepter de se laisser déranger, accepter de se laisser bousculer, en ayant toujours à l'esprit que le Christ nous dit « n'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». Mais être disciple du Christ, ce n'est pas reposant. Il faut se le dire une bonne fois pour toutes, ce n'est pas reposant. Le repos, il sera éternel, mais après. Pour l'instant, on est dans cette suite. Dans cette suite dans laquelle nous n'avons comme seule boussole que celui qui marche devant nous. Il marche devant nous pour nous ouvrir un chemin. N'oublions jamais que son chemin a abouti à la croix. Et que donc il a abouti à ce qui semblait être un échec, mais ce qui était le don parfait de lui-même et total de lui-même. Donc si le disciple n'est pas plus grand que son maître, ne pensons pas que la croix soit étrangère à notre propre existence. Mais du coup, je pense que nous pouvons tout à fait concilier l'audace de vivre sa vie, d'être acteur, mais être acteur sous la mouvance de l'Esprit-Saint. Et c'est plus nous prions, plus nous nous mettons sous cette mouvance de l'Esprit-Saint, plus nous acceptons dans la prière de demander à l'Esprit de nous guider, de nous abandonner entre les mains du Père, en sachant que de toute façon, quoi qu'il arrive, il sera toujours avec nous. C'est si nous acceptons de vivre cela que l'on peut avoir vraiment cette audace parfaite de vivre et cette audace de répondre à l'appel du Christ et d'être attentif à l'Esprit-Saint. Je crois aussi que pour ne pas étouffer en nous l'Esprit-Saint, il faut écouter les autres. Dans la Bible, dans l'Évangile, il y a, vous savez, le passage de la correction fraternelle. Ce n'est pas très simple, la correction fraternelle. Ce n'est pas très simple de dire à quelqu'un « je crois que tu te gourres, que tu fais erreur, que tu te trompes ». Ce n'est pas très simple de s'entendre dire par un autre « tu te plantes ». Mais en même temps, c'est notre responsabilité, parce que nous avons une communauté de salut. Nous sommes sauvés ensemble. Et donc notre responsabilité, c'est de permettre à l'autre de vivre quelque chose de ce salut. Et l'Esprit, il nous parle par les autres. Il nous parle par celui qui m'invite à me convertir, qui m'invite à être plus pleinement moi-même. Et donc je crois qu'il faut oser parler à l'autre. Il faut oser pouvoir dire à l'autre quelque chose. avec délicatesse, avec douceur. Reprenez-vous avec douceur. Mais je crois qu'il y a là quelque chose... L'autre me parle de l'Esprit-Saint. Nous rêverions tous d'avoir, le matin, en nous réveillant, un petit billet signé « Je suis Dieu » ou « L'Esprit-Saint fait ça aujourd'hui ». Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça. Et du coup, voilà, il faut surfer sur les vagues, quelquefois. Il faut surfer sur les vagues et se laisser accompagner. Vous savez, on ne rame pas éternellement à contre-courant. Et donc, comment est-ce que nous nous laissons comme ça, petit à petit, dans une habitude? Vous savez, les vertus, c'est ce qu'on appelle un habitus. Et l'habitus, c'est cette propension que l'on a à accomplir naturellement quelque chose. Plus nous nous confions à l'Esprit-Saint, plus nous nous laisserons conduire par l'Esprit-Saint. Et donc, il faut avoir une conduite vertueuse, de s'abandonner petit à petit à l'Esprit-Saint, de le prier et de se laisser conduire par lui. Moi, j'ai cet exemple très frappant. Comme porte-parole de la conférence, j'ai eu des moments délicats avec les médias, difficiles. Et ça a été pour moi des moments, je ne savais pas qu'on pouvait faire plusieurs choses à la fois, mais j'ai rarement eu des moments de prière aussi intenses que dans les interviews à la télévision ou à la radio. Parce que je me souvenais que Jésus nous avait dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, l'Esprit vous soufflera ce que vous direz. » Et moi, il n'y a pas une interview où je n'invoquais pas perpétuellement l'Esprit-Saint. Pendant que j'écoutais la question, je disais « Esprit de Dieu, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles en moi. » Et je pense que s'ouvrir, accepter que ce ne soit pas nous qui soyons maîtres, mais que ce soit l'Esprit qui nous dicte les choses, d'abord ça apaise. Ensuite, on peut peut-être dire des choses moins bêtes que si on ne laissait pas l'Esprit parler en nous. Mais je crois qu'il y a vraiment ça. Vous savez, comme la mer se retire du rivage, accepter que on se retire de soi pour que ce soit un autre qui prenne la parole. Et moi, en tout cas, j'ai fait cette expérience très forte de l'abandon à l'Esprit-Saint qui est si sécurisant, d'une certaine manière, si sécurisant. Et je crois que c'est par ce fait-là que petit à petit, on y arrive. Un mot encore sur quel regard Dieu pose-t-il sur nos égarements, nos erreurs, nos tourments? Dieu ne nous enferme jamais. Dieu ne nous enferme jamais sur ce que nous pouvons faire, sur ce que nous pouvons oublier, sur ce que nous n'avons pas fait. Le bon pasteur, c'est celui qui va à la recherche de la brebis perdue. Il laisse les 99 autres, ce qui rationnellement est incroyable. Mais il va à la recherche de la brebis perdue. Et donc, Dieu ne peut pas se satisfaire de ce que nous nous éloignons de lui. Non pas parce qu'il serait jaloux, mais parce qu'il sait que c'est quand nous sommes avec lui que nous sommes heureux. Et que l'amour de Dieu ne peut pas se passer d'être partagé. Et donc quand nous nous égarons de lui, il revient vers nous. Il va vers nous, il nous cherche. Le début du livre de la Genèse, c'est « Adam, où es-tu ? » « Adam, où es-tu ? » Mais ce n'est pas pour l'engueuler. C'est parce que Dieu ne peut pas se passer de l'homme. Et que Adam disparaissant à ses yeux, il va le chercher. Je crois qu'il y a cette extraordinaire attitude de Dieu vis-à-vis de l'homme, plus que cette bienveillance, cet amour, cette sollicitude, ce prendre soin dont on parlait tout à l'heure, qui est extraordinaire. C'est le bon pasteur. Et donc il ne regarde pas nos égarements, il regarde la personne qui s'égare en lui disant « Mais reviens vers moi. » « Revenez vers moi de tout votre cœur, dit-il à son peuple. » Et il dit, il s'arrête devant Zachée. Parce que l'attitude de Jésus devant quelqu'un qui s'égare, c'est ne pas d'abord voir l'égarement, c'est de voir la personne. La femme adultère, il ne voit pas d'abord une femme adultère, il voit une femme condamnée par les autres, mise au banc. Et il lui dit, « Femme, personne ne t'a condamnée ? Moi non plus, je ne te condamne pas. « Va et ne pêche plus. » À Zachée, le publicain, il ne lui dit pas « Zachée, tu as volé. » Il lui dit « Zachée, j'ai envie de demeurer chez toi. Aujourd'hui, il me faut demeurer chez toi. » Et donc, le Christ, avant de regarder nos égarements, il regarde la personne qui s'égare. Et il lui dit « Toi, tu n'es pas perdu. Toi, tu peux revenir. Et j'ai besoin de toi. » Donc, je pense que ce qui est important, c'est de toujours voir ça, c'est de voir à quel point notre Dieu... Et ce Dieu qui s'intéresse à nous, non pas parce que parce qu'on fait, on aurait fait des conneries, mais parce qu'il veut partager son amour. Il ne se résigne pas à ne pas partager son amour. Une autre question, l'amour est-il suffisant pour faire face à la dureté de la vie ? Suffisant, je ne sais pas, nécessaire, oui. Qu'est-ce que c'est que la dureté de la vie ? C'est la dureté des événements de notre vie. C'est la dureté des autres. C'est la dureté de ce que nous ressentons. Il y a trois amours. L'amour de Dieu, l'amour des autres, l'amour de soi. Et c'est uniquement si on unit ces trois amours que l'on peut faire face à la dureté de la vie. La dureté de la vie qui vient de notre fragilité personnelle, elle exige l'amour de soi. Et cet amour de soi n'est possible que si nous acceptons de nous regarder non pas à travers nos propres regards, mais en plongeant, comme le dit si bien le père de Chergé dans son testament spirituel, qui est une merveille de spiritualité, en plongeant notre regard dans le regard de Dieu. Nous ne pouvons bien nous regarder que si nous plongeons notre regard dans le regard de Dieu. Nous ne nous regardons pas nous-mêmes avec nos yeux, mais acceptons de nous regarder à travers le regard de Dieu. L'amour de soi est nécessaire. L'amour de soi n'est dit ni l'idolâtrie de soi, ni le mépris de soi. C'est l'amour de soi et donc l'estime de soi. L'amour des autres, parce que nous avons besoin de nous raccrocher. L'amour des autres, nous en avons besoin, ne nous leurrons pas. Nous en avons besoin parce que nous avons besoin de nous accrocher à des gens. On n'a pas besoin de l'amour de l'humanité entière, vous savez. On a besoin de l'amour de quelques-uns, c'est-à-dire de quelques personnes qui nous font confiance, dont nous savons que, quels que soient nos égarements, nos difficultés, ils seront là. C'est cet amour-là inconditionnel, image de l'amour inconditionnel du Fils pour nous. C'est cet amour-là dont nous avons besoin. Et l'amour de Dieu, parce que nous savons qu'il est de toujours à toujours. Alors, est-ce qu'il est suffisant pour faire face à la dureté de la vie ? Oui, mais il n'efface pas la dureté de la vie. Il ne l'efface pas. Jésus ne nous a jamais dit que nous n'aurions pas d'épreuves, mais il nous a dit qu'il pouvait nous aider à traverser les épreuves. Il n'a pas épargné à ses disciples les épreuves. Il était là en dormant dans la barque quand la barque était agitée sur les flots. Il dormait et les disciples étaient terrorisés. Mais il ne faut pas oublier qu'il était là. Mais il dormait. Pourquoi a-t-il permis que cette tempête soit là et que les apôtres soient désemparés ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il était là, il dormait, et qu'il est le maître et le seigneur des flots et de la tempête. Peut-être que ça met du temps. Mais si nous acceptons de cheminer avec lui, nous savons qu'il n'est pas de tunnel sans lumière au bout. Et nous savons qu'il n'est pas de vie sans espérance. Cette espérance qui n'est pas une illusion, mais cette certitude que le mal est vaincu, que la vie est plus forte que la mort et que le Christ est toujours avec nous. L'espérance, ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas demain on rasera gratis. Ce n'est même pas demain tu iras mieux. Mais c'est moi je suis avec toi. Moi je suis avec toi. Et donc c'est ça qui nous permet de traverser les tempêtes de l'existence. Et c'est ça qui nous permet de faire face à la dureté de la vie. L'audace doit-elle nous inciter à prendre des risques inconsidérés ? Je ne crois pas. Mais qu'est-ce que c'est qu'un risque inconsidéré ? La considération du risque, elle dépend de chacun. Et je ne suis pas sûr que le risque pour l'un soit le même que pour l'autre. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'audace ne doit pas nous conduire à faire prendre des risques à l'autre. Nous pouvons nous risquer nous-mêmes, mais nous ne pouvons pas engager l'autre dans un risque. Et que nous revenons à la Genèse. Il y a Adam, où es-tu ? Mais il y a aussi la question que Dieu pose à Caïn après avoir tué Abel. Qu'as-tu fait de ton frère ? Et suis-je le gardien de mon frère ? Oui, tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ton frère. Et donc, ce principe de solidarité de l'humanité fait que prendre soin, c'est être le gardien de l'autre. Non pas le gardien à la manière d'un gardien de prison, mais le gardien à la manière dont, dans la chanson de Roland, on dit « Père, garde-toi à droite, Père, garde-toi à gauche ». C'est-à-dire, je suis là pour t'éviter de tomber. Et donc, je ne peux pas prendre un risque qui te fasse tomber. Et je pense que nous avons cette responsabilité de prendre un risque qui est proportionnel à ce que nous pouvons vivre. Voilà, moi, lors de mon bac, c'était il y a quelques années, où vous voyez la taille, hein, 1m84, la longueur des jambes que j'ai, saut en hauteur à l'épreuve de bac de gym, fil 80 cm, je saute, je tombe même pas sur le tapis. Mais à l'extérieur du tapis, je me pète un bras, tout dire sur le sportif que je suis, un athlète, et donc je ne vais pas prendre le risque de faire un marathon tout de suite. En revanche, je peux prendre le risque de m'entraîner en vue de faire un marathon. Si la vie est un chemin, je ne cherche pas à atteindre le but tout de suite, mais je cherche à me mettre en chemin. Et donc, comment est-ce que l'audace m'invite à ne pas me satisfaire de quelque chose dont je me dis je n'y arriverai jamais, mais à me mettre en chemin? Et peut-être que je me planterai, mais l'échec, ce n'est pas grave. L'échec, ce n'est pas grave parce que Dieu est toujours là pour nous relever. Et donc, comment est-ce que, justement, nous ne regardons pas d'abord le but, mais nous voyons le chemin? Et c'est pour ça que la vie est un pèlerinage. C'est pour ça que l'Église est pèlerine sur cette terre. Parce qu'on doit toujours quitter. On doit toujours quitter quelque chose. Quitter des certitudes. Quitter des parents. Quitter une vie. Quitter des habitudes. On doit toujours marcher, cheminer. Parce qu'on ne peut pas rester statique. En vue d'un but. Et nous sommes des pèlerins. Et nous avons donc toujours à vivre cela, à entrer sur ce chemin et à ne pas nous satisfaire de ne pas arriver. L'essentiel, c'est de marcher. L'essentiel, c'est de marcher. Mais pour marcher, il faut accepter de quitter. Et donc, il y a une sécurité qui est plus forte que tout, qui nous inviterait à penser que, on est mieux sur son canapé que sur le bitume. Ben non, on n'est pas fait pour rester sur son canapé. On est fait pour affronter quelquefois le gros temps. Mais en tout cas, la route. Nous sommes faits pour la route. Et je pense que ça, ça me paraît assez important. Les rapports entre audace et liberté intérieure. La liberté intérieure est-elle une condition préalable à l'audace? Ou au contraire, l'absence de liberté intérieure est-elle un empêchement à l'audace? La liberté intérieure, c'est quoi? Liberté intérieure, je crois que c'est... comme un piquet qui est en nous et qui nous permet de tenir debout. Et qui fait que nous ne sommes pas soumis au regard des uns qui me disent ça, au regard des autres qui me disent ça, à la puissance ou à la pression des événements qui me font pencher d'un côté ou d'un autre. Mais la liberté intérieure, c'est ce stabilisateur qui me fait être ce que je suis, sans renier mes convictions profondes, en évoluant, parce qu'un être humain évolue toujours, mais qui me permet... d'être moi-même sans être esclave de ce qui m'entoure, de ce et de ceux qui m'entourent, sans nier les interactions qu'il y a entre les deux. Vous savez, si je parlais de la liberté intérieure pour Bernadette, c'est parce que non seulement elle n'avait pas peur, mais elle était certaine d'être dépositaire d'un trésor. Cette révélation que Marie lui avait faite dans les apparitions. Et la liberté intérieure... elle vient de ce que nous avons quelque chose. Nous savons que nous avons quelque chose à porter et que personne ne pourra nous empêcher de la porter. Alors je pense que la liberté intérieure, ce n'est pas une condition préalable à l'audace, mais l'audace, pour l'audace, ça vaut rien. Qu'est-ce que c'est que l'audace pour l'audace? C'est de l'intrépidité. Il y a une différence entre l'audace et l'intrépidité. L'audace, elle est réfléchie. Hein, l'audace, elle est réfléchie. On revient à l'inconsidéré. Mais en même temps, l'audace, c'est ce qui nous permet d'avancer et d'oser. Oser aller plus loin. Oser avancer encore. Et c'est par une liberté intérieure qu'on peut oser avancer encore, alors que les autres nous disent que c'est fou. Alors que moi-même, je me dis que c'est fou. Mais cette liberté intérieure qui nous vient justement de ce lien que nous avons, de ce souffle de l'esprit, c'est ça qui nous permet d'aller toujours plus loin. L'absence de liberté intérieure est-elle un empêchement à l'audace? C'est toujours cette interaction, c'est-à-dire c'est la liberté intérieure me permet d'être audacieux parce qu'elle me permet de ne pas être soumis au regard des autres, mais c'est une fois que l'audace devient, non pas comme quelque chose de naturel, mais comme le désir de se réaliser plus pleinement, et bien que l'on acquiert une liberté intérieure plus grande. Donc voilà, il faudrait sans doute des développements sur ce sujet-là, mais honnêtement, je pas creuser suffisamment la question. La dernière question a trait à l'audace de l'Église. Audace de l'Église vis-à-vis de l'homosexualité. Quels sont les chemins à suivre? Ne doit-elle pas passer à la vitesse supérieure? Voir que les homos sont une richesse pour l'Église. Est-ce à nous de faire le chemin vers elle? L'Église, elle ne regarde pas l'homosexualité. L'Église, elle regarde des personnes. Et donc, du coup, L'Église, elle ne peut pas, me semble-t-il, regarder autrement que des personnes. Et je crois que les personnes, elles sont avant tout des enfants de Dieu, des gens aimés par Dieu, et des gens qui sont invités à la sainteté, des gens qui sont invités à la conversion permanente, on l'entendra dans l'Évangile tout à l'heure. Mais les chemins à suivre, c'est le chemin d'abord qui consiste à ce que le pape nous invite à suivre. Ces quatre verbes que le pape emploie souvent et qu'il a beaucoup employé dans Amoris Laetitia, qui sont très justes, accueillir, accompagner, discerner, intégrer. C'est ces quatre verbes qui sont autant de jalons pour le chemin que l'Église a à faire vis-à-vis de tous ceux qui ne sont pas dans la « norme », entre guillemets. C'est-à-dire qui ne sont pas dans ce qui peut apparaître comme le chemin tout tracé. Accueillir toute personne de manière inconditionnelle, c'est le rôle de l'Église. L'Église, quand elle accueille quelqu'un, elle ne lui demande pas s'il est hétérosexuel ou homosexuel. L'Église ne demande pas ce qu'on a fait dans son passé. L'Église, elle accueille une personne qui est là devant elle. Parce que l'Église, c'est vous, c'est moi, c'est pas un concept. Et donc c'est incarné par une personne que vous rencontrez, c'est incarné par un groupe, par une communauté chrétienne, par un ministre du culte, par plein de personnes. Donc je trouve que quelquefois on parle trop de l'Église sans considérer que c'est la communauté des croyants. Et c'est cette communauté des croyants qui a à faire ce chemin et d'abord à accueillir la personne. Ensuite l'accompagner, parce qu'il s'agit de cheminer avec, comme Jésus a cheminé avec les pèlerins d'Emmaüs. Vous savez, pour moi c'est l'exemple même, cet évangile des pèlerins d'Emmaüs, cet exemple si fort de la pédagogie du Christ. Deux hommes s'en allaient loin de Jérusalem, parce que celui en qui ils avaient mis leur confiance est mort sur le bois de la croix, et c'est donc un échec apparent. Et voici qu'ils s'approchent d'eux alors qu'ils ne le reconnaissent pas. Jésus aurait pu leur dire « Mais bande de crétins, vous n'avez donc rien compris ?» Il leur dit « Pourquoi pleurez-vous ? Pourquoi pleurez-vous » C'est-à-dire qu'il commence à les rejoindre là où ils sont. L'Église, la communauté des croyants, elle a à accueillir et à accompagner les gens à partir de là où ils sont. Pas en leur disant là où ils devraient être, mais à partir de là où ils sont. Accompagner, c'est-à-dire faire un bout de chemin avec, faire avancer, mais ne pas laisser en route, ne pas abandonner en route, ne pas perdre de vue un itinéraire possible, mais prendre la personne là où on est, sans rêver qu'elle soit plus loin déjà. Discerner. Discerner, c'est être capable de savoir comment l'esprit parle à la personne. Aider à déchiffrer ce que l'esprit dit. Et c'est donc un pédagogue. Celui qui aide à discerner, c'est un pédagogue. Celui qui libère les puissances de l'esprit dans la personne. Personne ne peut discerner à la place de l'autre. On peut aider au discernement, mais personne ne peut dire à quelqu'un « Voilà ce que l'esprit te dicte. » On peut te dire « Mais ça, est-ce que ça n'éveille pas en toi telle chose ?» Et donc aider à laisser émerger ce que l'esprit dit. Mais, et c'est sans doute une des racines des abus spirituels à l'intérieur de l'Église, c'est qu'on a voulu prendre la place de l'Esprit-Saint. Mais non, l'Esprit est à l'œuvre en nous, on peut m'aider à voir ce que l'Esprit me dit, mais on ne peut pas prendre la place de l'Esprit en moi. Et donc je crois que l'Église a à permettre, les chrétiens ont entre eux, à s'émerveiller de l'action de l'Esprit-Saint dans le cœur des autres et à aider l'autre à voir ce que l'Esprit lui dit, discerner, et puis intégrer dans la communauté chrétienne. Parce que personne ne peut en être exclu. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un ne communie pas qu'il est exclu de la communauté chrétienne. L'excommunication, c'est quelque chose de radical, c'est quelque chose de très rare. Et donc, elle existe comme une sanction. Mais comme une sanction médicinale, c'est-à-dire que même l'excommunication n'a comme but que de réintégrer la personne dans la communion de l'Église. Et donc, je crois que le but de l'Église, c'est de permettre à chacun de trouver sa place. Vous avez votre place dans l'Église. Vous avez votre place dans l'Église. Vous avez quelque chose à dire à l'Église. Vous avez quelque chose à apporter à l'Église. C'est évident. C'est évident. Comme chacun d'entre nous. Nous sommes indispensables à l'Église. Et je trouve que une des choses, j'en discutais avec tel ou tel d'entre vous tout à l'heure, une des choses qui pour moi est le plus douloureux, c'est de voir des personnes homosexuelles qui, en raison même de leur orientation sexuelle, pensent qu'ils n'ont plus de place dans l'Église. C'est la responsabilité de l'Église de montrer un visage accueillant, à la responsabilité des communautés chrétiennes, à la responsabilité de ceux qui ont un discours. Mais qui donc suis-je pour condamner celui qui cherche Dieu ? Accueillir, accompagner, discerner, intégrer. Je crois que c'est la mission de l'Église. Ne doit-elle pas passer à la vitesse supérieure ? Je vous invite simplement, de temps en temps, à mesurer le chemin parcouru. Il faut regarder devant, bien sûr, mais il faut quelquefois mesurer le chemin parcouru. Et ce chemin parcouru, il est depuis quelques années très important. Regardez dans nos diocèses tout ce qui aujourd'hui est fait pour la pastorale des personnes homosexuelles, pour leur permettre d'être intégrées, pour leur permettre de participer à la vie de l'Église. Beaucoup de chemins ont été parcourus. Dans la mentalité des chrétiens, il y a encore beaucoup de chemins à parcourir. Beaucoup. Dans la mentalité de nos communautés, il y a encore une ouverture à voir. C'est vrai. Mais je pense que beaucoup de choses ont été faites. DUEC a aidé, d'autres associations ont aidé. Je suis témoin combien à la conférence des évêques, avec la pastorale familiale, il y a tout un chemin qui se fait, toute une recherche qui se fait, que les documents qui ont été faits au moment de la loi Taubira, des documents ont approfondi cette question de la relation homosexuelle et que ces chemins sont importants, qu'ils ne sont sans doute pas finis, qu'il y a des choses qu'il faut encore travailler parce que rien n'est définitivement acquis. Mais il y a un vocabulaire sans doute qu'il faut pouvoir faire comprendre. Mais je pense que la vitesse supérieure, je ne sais pas ce que c'est, parce que la sainteté, ça n'a pas de vitesse, et que chacun a la sienne. Mais en revanche, je crois que l'accueil, là, oui, il faut que nous ouvrons nos cœurs et que les communautés s'ouvrent à toutes les personnes, quelles qu'elles soient. Ça, c'est vrai. Les personnes homosexuelles peuvent être une richesse pour l'Église, ça, c'est sûr. Mais je ne dirais pas que voir que les homos sont une richesse pour l'Église, tous sont une richesse, toutes les personnes sont une richesse. Les homos, les hétéros, tout ce que vous voulez, c'est pas les homos en tant que tels qui sont une richesse pour l'Église. Ce sont les personnes avec ce qu'elles représentent, avec ce qu'elles portent. Mais encore une fois, les personnes homosexuelles peuvent être structurées par leur orientation sexuelle, mais elles ne se résument pas à ça. Et donc c'est la richesse de la personne qui est une richesse pour l'Église. Et ce que vous portez de spécifique peut être une richesse si c'est mis au service de l'Église. Et donc je crois que les potentialités de vie que vous avez, de résilience, d'acceptation de soi, de pardon aussi, de miséricorde, de vie, tout ça, c'est une richesse pour l'Église, ça c'est vrai. Et donc je pense que l'Église a à apprendre beaucoup de tout cela, et vous avez à en témoigner. Vous avez à en témoigner, et la responsabilité, elle n'est pas uniquement du côté de l'Église, elle est aussi de votre côté. C'est-à-dire, comment est-ce que les personnes homosexuelles témoignent de la joie d'être chrétiens ? Comment est-ce qu'ils témoignent de ce que la foi au Christ leur apporte dans leur vie ? Comment est-ce qu'ils témoignent, non pas simplement d'un écartèlement, mais aussi qu'on peut devenir un en Christ ? Et ça, je crois que c'est une mission qui est extrêmement importante. Est-ce à nous de faire le chemin vers elle ? Vous savez, un chemin, il n'y a que Dieu qui, lorsqu'on fait un pas, fait les 99 autres pour nous rejoindre. Le reste, il faut faire un chemin l'un vers l'autre. C'est comme partout. Si dans un dialogue, on pense que c'est à l'autre de faire tout le chemin, alors on n'arrivera pas très loin. Mais il faut que chacun se mette en route l'un vers l'autre. D'autant plus que ce n'est pas un chemin qui est l'un contre l'autre. Mais c'est un chemin qui va se rapprochant comme ça. Pas comme ça, parce que comme ça, on va s'affronter, mais comme ça. Et donc, je pense que c'est un chemin, parce que nous allons sur la même route. L'Église, elle désire vivre du Christ. Vous désirez vivre du Christ. Et donc, tout ça ne peut que se rejoindre à un moment. Et donc, je crois vraiment que c'est ce chemin. Nous sommes sur le même chemin, puisque c'est le Christ qui est le chemin. Nous sommes sur le même chemin. Et comment sur ce chemin-là, nous pouvons découvrir que nous avons des tas de choses à apporter, à nous apporter les uns les autres. Et que si l'Église est cette mère aimante, alors elle ne peut que reconnaître dans les personnes qui vivent des choses douloureuses, des choses difficiles, des choses qu'elle n'approuve pas, elle ne peut que reconnaître simplement que ces personnes-là sont ses enfants. Ses enfants. Et ses enfants bien-aimés. Et donc, c'est en considérant, si vous vous acceptez de considérer que l'Église est une mère aimante, et si cette mère aimante considère que vous êtes ses enfants, alors ce chemin sera un chemin de rapprochement. On ne dira pas qui fait le plus et qui fait le moins. Ce sera dans une recherche mutuelle et un amour mutuel. Donc, voilà ce que je voulais dire. C'est sans doute imparfait, mais peut-être que vous avez d'autres questions. On a encore 10 minutes. Oui ? Ah oui.
Pour les gens qui sont en Zoom. Qui sont par Zoom.
Par rapport à ce que tu as dit par rapport à l'Église, moi, je connais un jeune qui a 25 ans, qui est homosexuel, qui découvre en même temps la foi, qui n'est pas baptisé, qui veut se faire baptiser, qui a même commencé une préparation de catéchumène. Et un jour, il habite dans son groupe, qu'il était homosexuel. Et le prêtre lui a répondu, oui, mais de toute façon, le baptême t'en guérira. Que lui dire, ça l'a dégoûté. Et il a dit, mais... Et moi, je cherche à l'aider. Bon, il est dans un diocèse rural, donc pour lui, ce n'est pas très facile de se déplacer, d'aller voir ailleurs. Comment faire ?
Alors, je pense que le baptême ne guérira pas parce que l'homosexualité n'est pas une maladie dont on n'a pas besoin de guérir. Donc. En revanche, le baptême le sauvera. C'est-à-dire que le baptême lui assurera le salut. Le salut qui est promis à tout homme, parce que c'est la promesse de Dieu. D'être sauvé de la mort, d'être sauvé du péché, d'être sauvé du non-sens de la vie. Ensuite, je pense qu'il faut accepter qu'il y ait des gens qui aient des mots imparfaits, qui soient pris au dépourvu. Je pense qu'on dire de quelqu'un qui est homosexuel, je suis homosexuel, je veux être baptisé, je suis homosexuel, ben oui, d'accord. Moi, je suis... dans la marine marchande et je veux être baptisé. Où est le problème ? C'est-à-dire que l'Église, me semble-t-il, n'a pas à... On est à regarder dans la chambre à coucher des gens, c'est pas le rôle de l'Église. Elle accueille la personne telle qu'elle est. Et le baptême nous sauve. Après, chacun de nous, nous avons à nous convertir. Il y a en nous du péché. Le péché n'est pas forcément là où on croit. Mais il y a en nous du péché, et donc comment est-ce que nous demandons pardon au Seigneur par rapport à ça ? Mais je pense que le cheminement du baptême, si le baptême était réservé à ceux qui sont déjà saints, ils n'auraient pas besoin d'être baptisés. Mais c'est justement, le baptême, c'est ce sacrement du salut pour tout homme parce qu'il se sait pécheur, mais qu'il se sait aussi aimé infiniment par Dieu. Alors que lui dire, si ce n'est de s'il a la force de pouvoir discuter avec cette personne qui lui a dit ça pour lui expliquer qu'il n'est pas malade et continuer un cheminement. Oui ?
Rebondir là-dessus, parce que moi je fais partie de l'équipe de catéchumène de ma paroisse. Ce qui est important, c'est que ce jeune qui a été appelé au baptême, il a été appelé par Dieu. Et que dans l'équipe d'accompagnement, ce qui est important, c'est de l'aider à discerner justement comment l'Esprit lui parle et comment l'Esprit de Dieu et de Jésus l'appelle au baptême. Bien sûr, en faisant un... Enfin, il est ce qu'il est, mais voilà, la parole de ce prêtre, c'est une parole de jugement, on n'a pas le droit de juger. Voilà, c'est difficile.
Tout à l'heure, tu disais que Dieu nous accompagne dans nos épreuves, dans notre vie, et pourtant, Dieu n'intervient pas dans nos épreuves et dans notre vie. Donc voilà, la notion accompagnement, intervention, c'est un peu compliqué. S'il n'intervient pas, qu'il nous accompagne ou qu'il n'intervient pas, j'ai envie de dire que ça sert à rien, ça c'est la première chose. Et là, voilà, je voulais voir un petit peu la nuance. Et la deuxième chose, Dieu ne nous abandonne jamais. Pourtant, le gars à Auschwitz, pardon, il a été pendu, il est mort. Voilà, Dieu l'a abandonné quelque part.
L'accompagnement, c'est déjà une intervention, Alexandre. Et accompagner quelqu'un, c'est faire quelque chose. C'est pas simplement être là, c'est faire quelque chose. Et donc, n'ayons pas de Dieu la vision d'un magicien. D'un magicien qui serait là et qui, d'un goût de baguette magique, comme elle s'appelait, la Samantha, ma sorcière bien-aimée, là, d'un coup de baguette magique, ferait disparaître, tac, 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 telle ou telle épreuve. C'est pas ça, Dieu. C'est pas Samantha, la baguette magique. Et donc, Dieu est là. Les épreuves, elles viennent et elles ne viennent pas de lui. Elles viennent de nous, elles viennent du monde, elles viennent du fait que la création est encore en état de gémissement. Et que, du coup, comment est-ce que Dieu est là pour nous accompagner, pour traverser ces épreuves, dans cette certitude que je disais tout à l'heure, que l'horizon de l'homme, c'est la divinisation, et que donc un jour, le royaume de Dieu sera totalement établi. Un jour, il sera totalement manifesté. Et ce jour-là, il n'y aura plus besoin d'intervention de Dieu, puisque nous serons tous en Dieu. Tout sera récapitulé en Christ. Et donc, je crois vraiment que accompagnement et intervention, c'est déjà quelque chose. Encore une fois, quoi, laissez Dieu être Dieu. Laissez Dieu être Dieu. C'est-à-dire, laissez-le agir avec puissance en vous, mais ne lui demandez pas autre chose que d'être Dieu. C'est-à-dire, ne le réduisez pas à l'homme. Les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Autant mes chemins sont plus élevés que vos chemins, autant ma parole plus, etc. C'est la lecture que nous avions dimanche dernier. Mes chemins ne sont pas vos chemins. Et donc, je pense qu'il faut laisser Dieu être Dieu, c'est-à-dire avoir un chemin qui n'est pas notre chemin. Nous aimerions qu'il soit, voilà encore une fois, ce magicien, ce héros, ce Superman. Non, moi je ne veux pas mettre ma vie entre les mains de Superman, ça ne m'intéresse pas. Mais je veux mettre ma vie en celui qui m'aime et qui m'aimera inconditionnellement, quoi que je fasse, quoi qu'il m'arrive, quelle que soit mon histoire. C'est bien mieux que Superman. Une vie sans épreuve, c'est une vie qui n'a pas besoin de force. Une vie dans laquelle il n'y a pas de liberté, où Dieu nous guiderait. C'est une vie qui n'a pas besoin de Dieu, qui n'a pas besoin de l'Esprit-Saint. Mais je crois que juste la force, c'est que Dieu est là et qu'il nous permet de traverser cela. Quant à Auschwitz, oui, il est mort. Mais sur le bois de la croix, Dieu est mort aussi. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien de se dire que le Fils de Dieu meurt sur la croix. Et que donc il accepte de donner sa vie. Pour que justement la mort ne soit plus un échec. Et que la mort de cet homme, c'est l'échec de celui qui l'a tué, c'est pas son échec à lui. Et qu'aujourd'hui, la résurrection nous invite à penser que la mort n'est pas la fin de tout, mais qu'elle est un passage. Et je pense que nous avons là aussi, dans notre société actuelle, à nous réconcilier avec la mort. Alors non pas avec la mort donnée, parce que la mort donnée est une horreur, c'est une injustice atroce, mais avec la mort en tant que telle. La mort fait partie de la vie. Parce que cette vie ne s'arrête pas avec le dernier battement du cœur, mais qu'elle s'épanouit dans la vie éternelle. L'horizon de notre vie, ce n'est pas la mort charnelle, c'est la vie éternelle en Dieu. Alors tu peux ne pas être d'accord, Alex, hein ? Je comprends tout à fait. Mais je crois qu'il y a là quand même quelques pistes. Encore une fois, laissons Dieu être Dieu, ne le réduisons pas à un espèce de magicien ou de Superman.
Merci. Alors, je me permets de rajouter deux petites dernières remarques, questions de la part de nos amis Zoom. La première, c'est ok, c'est vrai qu'on a beaucoup avancé en Église. On nous accueille en tant qu'homosexuels, mais on n'accueille pas encore l'engagement à deux, les actes. Bon, voilà, donc où va-t-on ? Et aussi, il y a une question sur, par rapport à ce qui vient d'être dit, entre l'accompagnement versus l'emprise. Voilà. Quelle est la frontière qui est parfois assez fine.
Donc sur cette dernière question qui est absolument essentielle, accompagnement, emprise, pour moi je pense que la chose primordiale, c'est que l'accompagnement il s'agit d'accompagner, non pas de se substituer à la personne. Et donc, comment est-ce que l'accompagnement est toujours un respect immensément délicat de la liberté de l'autre ? Il n'y a pas de directeur de conscience. Il y a un frère qui chemine avec un frère. On ne dirige pas une conscience. On accompagne quelqu'un dans sa vie et dans ses choix. À partir du moment où on dirige une conscience, alors c'est plus vraiment le respect de la conscience. N'oubliez jamais le primat de la conscience. Vous savez, même la conscience erronée, Et donc, je pense qu'à partir du moment où on cherche à travailler cette conscience, il y a une culture de conscience qu'il faut qu'on ait, hein, mais cette culture de conscience, elle est essentielle, mais la conscience, c'est ce noyau le plus intime où Dieu parle à l'homme, dans un cœur à cœur, pour lui faire découvrir là où est le bien. Et donc, je crois que il faut toujours obéir à sa conscience. On ne peut jamais permettre à quelqu'un de prendre main sur sa conscience. Et la frontière, elle est là. On accompagne quelqu'un, et à partir du moment où on prend la main sur la conscience, ça, c'est fini. C'est fini. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une très grande liberté par rapport à son accompagnateur, hein. Moi, je dis toujours à quelqu'un qui me demande de l'accompagner, bah, écoutez, il faut d'abord que moi, je puisse m'entendre avec vous, mais surtout que vous acceptiez que je sois moi. Et puis après, il faut que nous ayons la liberté, sans nous justifier d'aucune façon, d'arrêter à tout moment l'accompagnement. Il n'y a aucune justification à donner. Mais on peut arrêter à tout moment l'accompagnement. Sur l'autre question, je n'ai pas de réponse, sinon de nous renvoyer à ce que l'Église dit, hein, sur la sexualité en elle-même, sur la beauté de la sexualité, sur ce qu'elle dit sur le lien entre la sexualité et la procréation, sur ce qu'elle dit entre le lien et la sexualité et l'amour dans ce qu'elle dit, sa façon oblative de l'amour, donc d'un amour total, irrévocable, exclusif. Après, je voudrais nous interroger sur le sens même de la sexualité et de l'acte sexuel. Il est don. Il est don. Et il est don d'un amour. Une sexualité qui est séparée de l'expression d'un amour est quelque chose qui me paraît un peu vide. Il est l'expression de quelque chose. La sexualité est toujours l'expression d'un amour, quelque chose. Acceptons que là aussi, nous puissions être en désaccord. Nous puissions ne pas être d'accord. Et que nous puissions dire, l'Église dit ça, moi je vis ça. C'est pas la même chose. C'est pas pour autant que je sois au banc de l'Église. Ne nous excommunions pas nous-mêmes, quoi, hein. Que les personnes homosexuelles ne se disent pas qu'elles sont pas en dehors de l'Église parce que l'Église dit quelque chose qu'elles ne peuvent pas vivre. Il y a plein de sujets sur lesquels la question ne se pose pas. L'Église dit plein de choses sur les migrants. Beaucoup de chrétiens ne obéissent absolument pas à l'Église sur la question des migrants. Ils ne se sentent pas pour autant hors de l'Église. Sur la question de la justice sociale, il y a bien des chrétiens qui ne sont pas en désaccord. Ils ne se sentent pas pourtant hors de l'Église. Sur ces questions-là, parce qu'elles touchent une intimité toute particulière, il y a un impact qui est beaucoup plus fort. Mais vous remarquerez que le pontificat du pape François est beaucoup plus marqué sur des questions d'ordre social que sur des questions d'ordre sexuel. Et que donc il y a un équilibre entre les deux qu'il faut vraiment que nous ayons. Je pense que la démarche est d'accueillir ce que dit l'Église pour savoir ce que cela signifie, d'éclairer notre conscience par rapport à ça et d'agir conformément à notre conscience.
Alors juste un mot pour... parce que je voulais au nom de tous ceux qui sont là aujourd'hui en présentiel ou sur Zoom, d'un remercier du fond du cœur Olivier pour ses paroles fortes